François Chevalier, bonjour.
Bonjour
Vous
Didier.
êtes stratégiste à la banque Leonardo. On va parler avec vous de marché. Peut-être pour commencer un petit bilan de ce premier semestre. On a vu, alors qu'il fallait pas forcément vendre au mois de mai, contrairement au proverbe cette année, au proverbe boursier. En juin, ça a été beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce que vous retenez, vous, fondamentalement sur ce premier semestre 2013 pour la bourse?
Déjà, la première chose, c'est la fin de la surperformance des actions européennes qu'on avait connue au second semestre 2012. Donc là, c'est terminé. On est à égalité, à parité maintenant avec les États-Unis. Et puis la deuxième chose, c'est la fin probable. Vous savez que le quantitative easing a été repris en décembre, je crois fin 2012. Et là, à partir du mois de mai, et en particulier de l'audition devant la commission paritaire de Ben Bernanke, il est extrêmement probable que le quantitative easing, l'assouplissement quantitatif de la politique monétaire, les achats de 85 milliards de titres par mois vont prendre fin. Prendre fin. Et le calendrier a été donné avec beaucoup de précision au mois de juin. Mais c'est ça, en fait, qui a gâché le premier semestre. Parce que les performances du premier semestre, finalement, seront extrêmement moyennes, quasiment flat. C'est parce qu'on anticipe la fin de l'assouplissement quantitatif monétaire aux États-Unis.
Est-ce que justement, on dit que les investisseurs finalement devaient s'y attendre,
Oui.
pourquoi ils en tiennent plus compte aujourd'hui qu'il y a quelques mois, quand par exemple ils achetaient des actions alors que la macroéconomie clairement n'était pas là et ils sont quand même allés acheter des actions il y a quelques mois?
Oui, mais là, ce qui est très clair, le catalyseur, au début, lorsque la Fed a repris l'assouplissement quantitatif, ses achats de titres, c'était pour une durée illimitée. À la limite, elle bornait par l'évolution du marché de l'emploi et en particulier par un certain niveau du taux de chômage. En réalité, ce qui se passe aux États-Unis, c'est la résurrection de l'immobilier américain. Et ça, c'est vraiment le phénomène. Alors, le phénomène réel du premier semestre, c'est ça. C'est le fait que les prix dans l'ancien remontent de manière extrêmement rapide, vertigineuse. Ça vient d'être confirmé par le Cash-Shiller Index. Or, vous savez que l'objectif du quantitative easing, c'était d'agir sur l'économie via l'effet richesse. On constate effectivement que la richesse immobilière des ménages américains commence à remonter. On a tout qui s'enchaîne. C'est-à-dire la confiance revient et la consommation finalement résiste au séquestre budgétaire et aux économies budgétaires réalisées par le gouvernement. C'est ça qui a changé.
Donc quelque part, les investisseurs, s'ils regardaient bien leur tableau de bord, ils devraient se réjouir, entre guillemets, du fait que ça va mieux sur l'économie américaine d'abord, avant d'éventuellement voir le côté négatif d'une hausse de taux.
Oui, c'est ça, c'est très. Mais on est sur un niveau extrêmement paradoxal de réaction des actions. Parce qu'effectivement, on voit les actions souhaiter finalement que les nouvelles ne soient pas très bonnes, parce que ça mettrait fin, en fait, à l'assouplissement monétaire. Faire un peu ne pas apprécier, bouder des bonnes nouvelles qui signalent que la fin du QE. Oui, c'est un paradoxe, mais c'est un paradoxe qui ne peut pas durer très longtemps. Parce que lorsque les nouvelles sont mauvaises, finalement, on se fait rattraper, on est rattrapé par les anticipations de profit. Donc c'est plutôt sain, oui, c'est plutôt sain, mais après, ça pose le problème de la valorisation des actions. Il faut voir qu'avec l'assouplissement de la politique monétaire américaine, on est passé à des niveaux de valorisation qui sont élevés, eu égard notamment au cycle des profits. Le cycle des profits, on est en haut de cycle en ce moment, et les valorisations devraient être beaucoup plus faibles. C'est ça, il y a une surévaluation des actions américaines et ça les rend très vulnérables et très sensibles à la fin de l'assouplissement monétaire.
Un mot du côté des pays émergents, parce que c'est vrai que au début de cette crise, on pensait que les pays émergents seraient immunisés. On a vu que c'était pas le cas, si on cite le Brésil ou la Chine notamment. Là, les investisseurs sont aussi très attentifs, notamment à ce qui se passe en Chine. Bien entendu, ça a beaucoup d'impact, matières premières et autres, hein. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce qui se passe en Chine? Certains ont dit, ah, c'est finalement ce qui s'est passé aux États-Unis, même crise des subprimes chinois. Ou est-ce que la Banque centrale chinoise va faire le nécessaire?
En principe, les Chinois maîtrisent assez bien l'évolution de leur économie depuis la dévaluation de 1994. Ils font extrêmement attention à tout ce qui se passe. Donc j'ai plutôt confiance du côté chinois. Mais c'est vrai que le problème asiatique, ça a toujours été le surinvestissement. La crise de 1997, c'est une crise de surinvestissement. Sur les pays émergents, le ralentissement est général. Il ne concerne pas seulement la Chine, hein. Il concerne l'Inde, la Corée, le Brésil, absolument tous les pays émergents. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que vous savez que on a beaucoup accusé la Fed d'avoir alimenté la spéculation sur les matières premières, d'avoir alimenté la spéculation sur les pays émergents. C'est vrai que les 85 milliards qu'elle consacre à acheter des titres soit des emprunts d'État ou des titres hypothécaires, c'est autant d'argent qui est disponible pour d'autres placements, et en particulier sur les matières premières et sur les pays émergents. Ce qui est remarquable, en dehors du fait que la Chine ralentit, ce qui est remarquable, c'est qu'on a eu au mois de juin une très forte baisse des places émergentes et de l'or. Et donc il y a bien ce contre-coup. Ça faisait partie, la fièvre pour l'or ou les pays émergents, c'était finalement un à côté de cette politique généreuse de la Fed. Et ce qui est aussi remarquable, c'est que la zone euro n'a pas été affectée par la perspective de la fin du QE aux États-Unis. Il y a bien eu remontée générale des taux longs, des taux italiens, des taux espagnols, mais moyennant des spreads, notamment par rapport aux OAT, constants, inchangés. Donc la zone euro résiste. Pas les pays émergents et pas les matières premières.
Alors, si on revient justement sur cette zone euro, on pourrait dire que le Portugal s'est invité à aller peut-être pas pour tout l'été, mais s'est invité un petit peu au regard des investisseurs. Est-ce que ça veut dire qu'on va reparler encore de ces questions des pays périphériques, que ça, finalement, quand on entend parfois des politiques dire la crise est finie, quand on regarde concrètement, on se dit, bah, sur les pays, certains pays européens, c'est pas le cas, on est loin d'avoir fini cette crise.
Je crois que sur le plan financier, les choses sont extrêmement bien balisées parce qu'il y a un an, Mario Draghi disait qu'il ferait tout pour sauver l'euro et que l'euro était irréversible. Finalement, on a lancé le programme OMT qui n'a jamais été appliqué. Et le Portugal qui n'a pas été appliqué parce que l'Espagne n'en a pas eu besoin. Et en ce moment, on assiste d'ailleurs à un redressement des économies du Sud et une dégradation des pays du Nord hors Allemagne. Je crois que non, on ne va pas revivre les mêmes affres avec le Portugal. D'ailleurs, entre la Grèce et le Portugal, il y a eu Chypre. Et Chypre, on l'a aussi extrêmement bien digéré. Et puis il y a la Slovénie. Donc non, on est bien. Et là, c'est assez remarquable de voir que les spreads, à défaut des taux, les spreads de l'Italie ou de l'Espagne sont inchangés, malgré le contexte d'arrêt probable du QE. Et malgré le Portugal, il n'y a pas eu de tension particulière. Le Portugal n'est pas contagieux, mais le Chypre non plus n'a pas été contagieux.
Alors peut-être en conclusion, pour l'investisseur sur ces marchés actions, la plupart des investisseurs sont aujourd'hui favorables à ces marchés actions. Quelles sont les précautions à prendre quand on investit sur ces marchés actions? Est-ce qu'il y a des secteurs à éviter? Est-ce qu'il y a des valeurs à éviter? Comment on investit sur ces actions dans cette période?
Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est on est en train de sortir d'une période exceptionnelle d'aisance, de facilité monétaire. Et que ça n'est jamais extrêmement favorable. Je pense à 1994. 1994, version américaine, pas version européenne. Parce que la version européenne, c'était dramatique pour les actions, parce que, en même temps que la Fed resserrait sa politique en 1994, il y a eu rechute du dollar. On voit manifestement qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et la perspective de la fin de la souplesse monétaire américaine a même entraîné un renforcement du dollar. Mais ce n'est pas. La période qui vient sera négative pour les obligations. Les taux longs vont continuer de remonter. Je pense qu'elle devrait être neutre pour les actions parce que face à la remontée des taux, on va probablement avoir une accélération économique. Il n'y a qu'à regarder l'immobilier aux États-Unis. Donc c'est relativement neutre. Il ne faut pas se précipiter sur les actions. Il faut vraiment faire attention. D'abord, je pense qu'elles ne feront pas grand-chose en fait sur les 12 mois qui viennent. Et il faut faire attention aux valorisations. Si vous regardez parmi les secteurs qui résistent bien, on a les technos et l'aviation. Mais tous les autres ont souffert. Et en particulier, par exemple, le luxe, qui a été bien porté par les pays émergents, souffre. Et c'est vrai que les Américains reviennent.
Bien, on aura l'occasion d'en reparler. Merci d'avoir fait le point avec nous, François Chevalier. On rappelle, vous êtes donc stratégiste à la banque Leonardo.
Merci.